va écouter Olivier Clochard, que je remercie pour avoir accepté notre invitation. Olivier Clochard est géographe, membre du CNRS et co-directeur du laboratoire Migrinter à Poitiers. Il travaille principalement sur la thématique du contrôle migratoire aux frontières européennes, avec une attention particulière portée aux questions d'enfermement. Et c'est sur cette thématique qu'on a sollicité à intervenir aujourd'hui, notamment parce que donc Olivier et Karen, avec qui tu as coécrit le papier dont on va discuter aujourd'hui, vous êtes saisis de ce terrain qu'est l'enfermement des migrations pour élaborer la notion de gouvernement confinementaire, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir durant ta présentation et les discussions qui suivront. Je vous ferai une petite discussion de cette notion après ta présentation, qui sera assez brève pour laisser le plus possible de temps d'échange avec la salle. Et donc, ta présentation s'intitule « Régime de confinement et gestion des migrations sur l'île de Chypre ».
Je reprends le papier.
Ouais, ça voilà. Va un petit peu. Et donc environ 45 minutes à peu près, et ensuite, et ensuite on pourra discuter tous ensemble. Voilà, je te laisse la parole.
D'accord, bien. Bien, merci également de l'invitation. Pour moi, c'est une première de venir à l'Uromis à Nice, donc je suis très content. Donc effectivement, ce papier devait être présenté, c'est un article qu'on a co-écrit avec Karen Akoka, donc qui est sociologue, qui a fait sa thèse à Migrinter, maintenant qui travaille à l'université de Paris 10 en tant que sociologue. Et c'est effectivement une réflexion commune qu'on a menée ensemble suite à différents terrains qui ont été effectués en 2013, 2014, 2015 et 2016 au cours de ces quatre années. Et voilà un petit peu. Alors, pour vous rappeler très rapidement, moi, je m'intéresse à la question de la migration à Chypre. C'est venu un peu par curiosité, dans le sens où, à la fin de ma thèse en 2007, c'est plus de 10 ans, on avait été sollicité au sein du réseau Micro-Europe, qui est un réseau d'associations et de chercheurs qui travaillent sur les questions relatives à l'enfermement et aux questions des contrôles aux frontières. On avait été sollicité par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen pour mener des enquêtes dans des centres fermés et ouverts dans l'ensemble des 25 premiers pays membres de l'Union européenne. Et donc on avait tout un panel de deux pays à choisir pour mener des enquêtes. Et voilà, vraiment par curiosité, j'avais pris des pays qui étaient que je connaissais pas, mais que j'avais envie de découvrir, et qui étaient les trois pays baltes et Chypre. Et donc Chypre m'intéressait un peu plus particulièrement, dans le sens où il y avait la question de la frontière qui séparait l'île en deux parties. Et donc c'est à partir de là que j'ai découvert vraiment des choses et que j'ai commencé à m'y intéresser, je dirais, de manière un peu plus profondément, on va dire, notamment à partir de 2009, dans un cadre d'un programme qui s'appelle Terre Ferme, qui est terminé, là, dont l'ouvrage final devrait sortir, qui avait été piloté par Bénédicte Michalon, qui est géographe, et qui avait Et donc j'ai poursuivi ces questions-là, je dirais, liées dans un premier temps, plus particulièrement à l'enfermement physique des personnes étrangères, pour le seul fait qu'elles n'avaient pas de titre de séjour en règle, et notamment parce qu'à Chypre, on voyait qu'il y avait une porosité quand même qui était assez forte entre, je dirais, le milieu carcéral, voire les commissariats de police, et les centres de rétention administrative. Donc ça me semblait quand même un terrain intéressant à faire. Et donc, je dirais, dans un premier temps, ça s'est fait plutôt de manière, entre guillemets, individuelle, même si on n'est jamais seul. Et ensuite, à partir donc, de 2013, Karen Akoka, et Camille Schmoll, Nathalie Bernardi-Tahir aussi, qui est géographe, qui s'est joint. Donc c'était quelque chose d'assez informel, mais le fait de travailler, je dirais, à plusieurs était vraiment intéressant, parce que moi, j'avais une connaissance de par mon seul regard, et le fait d'apporter aussi, je dirais, d'autres approches était vraiment intéressant. Et dernièrement, on a aussi Iris Polizou, qui est aussi géographe et qui s'est joint aussi à notre petite équipe, toujours sur ces questions-là. Voilà. Alors, je vais vous parler de chiffres, mais en même temps, c'est une réflexion qui peut bien évidemment être, élargie, sur d'autres pays, d'autres questions. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur cet article-là, vous faire un bref, résumé de ce qui a pu être dit sur ces questions-là. Et j'avais joint, je ne sais pas si vous avez vu, je vous avais joint un second article que j'avais fait sur les questions de mobilisation qui était paru dans Migration et dans la revue Migration et Société. Et aussi pour voir aussi que les migrants, vous savez tout au bien que moi, que ceux aussi sont des acteurs aussi, même si les dispositifs sont parfois très contraignants. Dans ces dispositifs, ils sont des acteurs assez forts. Alors, j'en reviendrai dans un premier temps donc des critères un peu d'ordre, général. Je trouve que c'est toujours important de parler en valeur relative parce que on voit que même si sur un plan d'effectifs, Chypre c'est 800 000 habitants à peu près, 127 000 migrants, enfin de personnes d'origine étrangère qui sont présents sur l'île, ça représente quand même près de 20% de la population de l'île, hein, contre 9,4% donc en 2002 si on reprend les chiffres officiels. Donc on voit quand même que il y a une part quand même relativement importante. Et on voit que donc, ce système migratoire de la République chypriote est tout d'abord aussi proche de celui d'autres pays du sud de l'Europe et s'apparente, je dirais, par plusieurs de ses aspects au modèle migratoire sud-européen, marché de travail stratifié ethniquement, segmenté économiquement, marqué aussi par l'importance de l'économie informelle et des pratiques non institutionnelles et notamment aussi une part aussi de migration féminine particulièrement visible pour notamment dans tout ce qui est le domaine du Caire. Donc on voit qu'on a une tension assez forte entre un appel extensif à la main-d'œuvre étrangère lié au développement économique de l'île et ce qui est important et ce qui nous a amené notamment à réfléchir sur cette question du confinement, c'est le refus, pas catégorique, mais quand même assez fort, de toute forme d'installation liée à la dimension, notamment ethnico-religieuse, de l'État. Et donc, ce qui fait que ça rapproche quand même, on voit quand même des similitudes, même si on est dans deux espaces géopolitiques assez différents, on voit des similitudes, par exemple, qui s'opèrent entre ce qui puisse exister au Liban, en Israël, notamment Karen Akoka, qui a beaucoup travaillé sur l'Israël, en tant que employé du HCR dans un premier temps, mais aussi en y faisant des recherches par la suite. Pour elle, c'était vraiment quelque chose qui était assez frappant dans cette similitude et ce rapprochement. Et donc, les personnes migrantes sont souvent vues comme une menace démographique et où ça pose un défi identitaire, notamment aux habitants chypriotes. Donc, jusqu'en 2010, on pourrait dire, aux alentours des 2010, des années 2010, Chypre n'avait pratiquement pas développé, de politique d'intégration à destination des migrants, des autres pays, notamment extérieurs à l'Union européenne, même si on avait des personnes quand même qui étaient présentes depuis une dizaine d'années, voire un peu plus longtemps. Donc, on voit qu'on avait quelque part des manières hybrides qui étaient mises en place de la part des autorités et qui ont conduit à se développer. Par exemple, si on prend la question plus particulièrement de l'enfermement, malgré que la directive retour impose une durée maximale de détention à 18 mois, on voit que parfois les autorités chypriotes peuvent continuer à s'en affranchir et à maintenir des personnes au-delà de cette période qui est quand même très longue. Donc, on a commencé, de par nos échanges, de façon informelle, de réfléchir dans cette question du régime de confinement qui s'appuie donc sur la mise à l'écart des étrangers, dans l'espace, mais aussi dans le temps, et de faire l'hypothèse que aussi bien les lieux d'enfermement, les contrats de travail, les statuts juridiques destinés à ces étrangers constituent une forme de continuum, de forme donc de confinement, puisqu'ils les maintiennent à distance de l'intégration dans la communauté nationale. Donc aussi bien dans des espaces physiques, mais aussi parfois dans des espaces juridiques, sectoriels, desquels il est presque, je dirais, du moins il est assez difficile de sortir. Hein, je pourrais prendre des exemples tout à l'heure des personnes qui ont, malgré qu'elles aient le statut de réfugié, qu'elles soient en règle, il aurait difficile quand même de quitter de l'île pour des raisons liées à la législation chypriote, malgré qu'on leur demande d'être en règle avec les différentes directives européennes. Alors, cette question du confinement, ces travaux donc se sont développés donc pas uniquement, je dirais, par notre réflexion. Elle existe déjà depuis très longtemps. Moi, j'avais déjà, je dirais, questionné avec les personnes au sein de Migreurope ou lorsqu'il y a eu tout ce débat au début des années 2000 où cette notion de camp a été réintroduite dans le champ des sciences sociales. Cette dimension, cette notion de camp n'était pas uniquement destinée aux espaces physiques, aux camps tels qu'on l'entend, mais il y avait vraiment une réflexion de dire aussi que toutes celles et ceux qui pouvaient être situés dans des campements informels, etc., participaient à ce processus d'encampement, donc repris par Michel Agier, et qui reprenait lui-même aussi une notion développée par Barbara Harel-Bond. Et donc on voit bien que cette réflexion date quand même depuis plus longtemps. Voilà, ça c'est quelque chose d'évident. Elle s'inscrit aussi dans le champ des circulations migratoires, qui avait proposé donc d'envisager ces lieux d'enfermement, ces camps, non plus seulement comme des lieux de contrôle, de blocage, mais comme des espaces aussi de redistribution des flux, quoi, dans le sens où ça peut être vu comme quelque chose de paradoxal, mais pas forcément, dans le sens où parfois d'être enfermé dans ces lieux-là, ça peut participer à la redéfinition du projet migratoire, du parcours. Voilà, c'est des choses qu'on le voit assez facilement par rapport aux enquêtes qui peuvent être menées. Donc c'est un triple décloisonnement que nous essayons de tendre à travers donc cette réflexion sur le confinement à partir donc du cas chypriote pour le faire sortir donc des dichotomies entre guillemets classiques dedans dehors désirable indésirable contrôle circulation. Voilà. Donc je vais en venir sur sur les trois plans. Donc je vous dis, dans un premier temps, je vais reprendre ces déclinaisons du confinement telles qu'on le décrit dans notre article, et en plus j'en viendrai sur des éléments un peu plus d'ordre théorique sur la question du gouvernement confinementaire, et puis enfin je terminerai sur le rôle et les actions des personnes migrantes, parce que pour montrer aussi cet aspect-là, à mon avis, qui mérite d'être souligné. Alors sur un des premiers, aspect qui vient à l'idée, c'est l'enfermement physique comme mode de régulation, donc qui va notamment au sein de Chypre, mais ça peut être aussi élargi au sein des autres pays européens, dans le sens où on a aujourd'hui des commissariats de police, des lieux qui sont destinés spécifiquement à la détention administrative des personnes migrantes, hein, comme ici à Nice, comme dans beaucoup d'autres pays européens. Et donc, là, sur cette période, là, cette carte, alors je ne vous ai pas mis l'ensemble de la légende, parce que sinon ça aurait été peut-être un peu plus difficile à voir, mais sur cette carte-là, je voulais vous montrer que sur la période donc, qui va de 2007 à 2014, on avait dans un premier temps un lieu qui était destiné spécifiquement à la rétention administrative des étrangers, qui était situé à l'intérieur même de la prison centrale de Nicosie, qui s'appelait Bloc 10. Bloc 10, c'était la partie pour les hommes. Bloc 9, c'était la partie pour les femmes. Et donc, c'était un lieu qui était situé au sein même de la prison centrale de Nicosie, donc que vous voyez là, qui est au centre de l'île. Et ensuite, venait pour étayer ce dispositif, on avait plusieurs commissariats de police qui étaient utilisés à des fins de rétention administrative. Donc ça, c'était un premier aspect, quelque chose que moi, j'ai tout de suite, je dirais, vu, compris, dès ma première visite en 2007. Néanmoins, ce que j'avais perçu quand même assez rapidement dans les entretiens et de ce que les gens pouvaient me dire, c'est qu'ils pouvaient être amenés à passer des séjours d'une semaine, parfois de plusieurs mois, dans d'autres commissariats de Lille. Alors, soit pour différentes raisons, soit parce que on le voyait, c'était suite à des conflits importants qui pouvaient être par des tensions assez fortes entre les autorités et les migrants, ou parfois entre migrants eux-mêmes. Et donc, pour faire baisser ces tensions-là, on allait envoyer ces personnes dans d'autres commissariats pour soit les punir, ou soit pour faire en sorte que les choses se passent mieux. Ou parfois, ça pouvait être lié à des questions simplement, je dirais, de répartition des sexes, dans le sens où la partie femme dans la prison de Nicosie avait une capacité maximale de 30 places. À un moment donné, lorsqu'il y avait plus de 30 femmes qui étaient maintenues dans ce lieu-là, il fallait nécessairement avoir recours à d'autres espaces, et donc ils utilisaient d'autres espaces. Et donc, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a tout un ensemble de petits commissariats comme ça, et lorsqu'on faisait des entretiens avec ces personnes-là, qui apparaissaient. Donc ça participait, c'était alors, des lieux qui étaient utilisés parfois de manière temporaire, mais parfois de manière assez continue, et ce qu'on avait entouré en noir, c'était les lieux où il y avait des espaces pour ou sous des femmes étaient régulièrement enfermées. Et donc, au-delà de ce dispositif, de ce continuum de l'enfermement, on voyait effectivement aussi après d'autres espaces, donc, à savoir les aéroports, là notamment bon, c'est les deux principaux qui sont ceux de Larnaca et Paphos, mais aussi celui d'Erkan qui est donc basé dans la partie nord de l'île, et où on a vu aussi ces questions de confinement s'y apparaître de manière peut-être un peu plus tardive, mais aussi dans la partie nord, même si je dirais, on a affaire à deux régimes politiques quand même assez distincts, mais ces questions se répercutent forcément nécessairement. Et donc après, au niveau des ports, alors on est sur une période, je dirais même pour Famagouste, à partir de 2011, ça s'est arrêté, parce que vous imaginez bien qu'avec le conflit syrien, entre Famagouste et Latakié, les relations maritimes se sont arrêtées très rapidement, mais on avait, et d'ailleurs ça avait été pointé par l'Union européenne, et notamment par le gouvernement de Chypre, lorsque cette ligne avait été mise en place vers 2007-2008, où ils avaient une crainte que ça produise des arrivées en nombre un peu plus important par cette ligne entre Famagouste et Latakié. Donc voilà, et donc après, autre espace aussi qu'on voit aussi qui sont utilisés, c'est notamment tous les passages, je dirais, entre la partie nord et la partie sud. Donc, savoir, pour rappel, c'est qu'à partir de 2003, où là, on a une ouverture de passage sur la ligne de démarcation qui sont mis en place et qui, aujourd'hui, c'est relativement facile de pouvoir passer entre le nord et le sud de l'île. Et la petite croix que vous voyez là, qui est au sein de Nicosie, correspond à l'hôpital psychiatrique. Voilà, qui eux aussi fait partie aussi de ce dispositif, entre dans ce... Donc là, je dirais, c'est vraiment le confinement, je dirais, physique, classique, tel qu'on peut l'entendre à l'échelle de l'île, tel qui peut exister. Mais on voit bien que, sans tenir qu'à ça, on passe à côté, je dirais, de tout un ensemble d'autres types de confinement. Et c'est pour ça, le fait de s'intéresser à la question des permis de séjour permet aussi de comprendre aussi la manière dont les gens peuvent être maintenus à l'écart de la société. Et donc le confinement dans des statuts temporaires ou si des niches d'emploi spécifiques qui contribuent donc à maintenir ces personnes à l'écart de l'intégration dans l'espace national se lie donc à travers la délivrance des permis de séjour qui se font que sur un an renouvelable. Et on voit bien par exemple sur par exemple la question des demandeurs d'asile où ces permis sont d'un an renouvelables, qui peuvent être comme considérés comme quelque chose de beaucoup plus je dirais protecteur que par rapport à la France, où on a des permis pour les demandeurs d'asile qui sont 3 mois renouvelés en 3 mois, voire 6 mois au mieux. Eh bien là, on voit quand même que ces permis sont sur un an. Mais au final, quand même, on a seulement 1 à 2% des personnes qui sont reconnues comme réfugiées. Et donc, on voit bien que la plupart des demandeurs d'asile vivent donc avec ce statut temporaire qui n'ont presque aucune chance de voir se transformer en un statut durable. Voilà, donc ça c'est vraiment... Alors on a des choses qui ont un petit peu évolué, parce que ce papier, donc on l'a écrit en 2014. Depuis 2015, les choses ont un peu évolué, dans le sens où il y a eu une ouverture de la part des autorités chypriotes, notamment pour accorder de manière un peu plus facilement des protections dites subsidiaires, donc savoir des permis d'un an, notamment aux populations en provenance de Syrie. À côté de ça, on voit aussi que ces populations migrantes sont maintenues aussi dans des niches d'emploi. Alors, on a plusieurs exemples. Par exemple, pour la question des demandeurs d'asile, ils ont le droit de travailler à partir d'une durée de 6 mois dans des secteurs spécifiques qui sont au nombre de 5, me semble-t-il, de mémoire. Et notamment dans ces 5 secteurs, donc on retrouve les questions, la sécurité, la restauration, mais aussi l'agriculture. Et l'agriculture est vraiment, je dirais, une des niches dans lesquelles ils sont amenés à travailler de manière... assez conséquent. Donc, ce cadre légal qui s'applique aux demandeurs d'asile, donc les confine dans des niches économiques auxquelles donc ils sont d'autant plus assujettis que s'ils refusent ces emplois qui leur sont proposés, les aides sociales peuvent être suspendues. Donc voilà, donc ils sont pris dans cet étau qu'il leur est difficile parfois de sortir. On voit aussi parmi ces niches d'emploi, il y a notamment toute la question du CARE, donc je vous disais tout à l'heure, où il y a un nombre d'étrangers non communautaires à Chypre qui est quand même assez conséquent, notamment chez les femmes, et qui viennent travailler notamment soit pour aider des familles aux tâches ménagères, mais aussi, je dirais, pour aider des personnes âgées, car il y a très peu de maisons de retraite à Chypre. Donc on voit que toute cette prise en charge des personnes âgées se fait par ces personnes-là. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas vu dans un premier temps et que j'ai vu lorsque j'ai pris des vacances à Chypre. À un moment donné, c'est bien aussi de prendre des vacances. Et je me suis aperçu de ça dans la campagne où je voyais des femmes asiatiques qui étaient avec des personnes âgées. Et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, elles n'étaient pas uniquement dans des maisons pour être des femmes de ménage, mais aussi pour aussi accompagner des personnes âgées dans leurs vieux jours. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose aussi de très présent. Voilà. Donc le titre de ces travailleuses, je dis travailleuses parce que on voit que ce sont principalement des femmes. On avait fait d'ailleurs, après notre premier retour d'une mission, je crois que c'est en 2013, on avait appelé ça un dimanche à Nicosie, qui est sur le site de Migrinter, je crois, où vraiment, enfin, il y en a sûrement certains d'entre vous qui l'ont observé dans d'autres villes ailleurs, mais Nicosie, c'est assez important, la façon dont le centre-ville peut se transformer en espace d'une journée, où on a tout un ensemble de commerces qui apparaît, qui n'existait pas pendant la semaine, avec des établissements plutôt religieux, mais aussi des établissements qui sont destinés spécifiquement à ces personnes-là, soit pour danser, soit pour se restaurer, soit simplement pour se poser, aussi des appartements qui peuvent être loués aussi. Enfin. Et donc on a vraiment affaire à une transformation de la ville durant cette période-là. Et donc, les titres de ces jours de ces travailleuses sont liés, quoi, étaient liés, parce qu'il y a eu un changement là, à la fin de l'année 2017, étaient liés donc, jusqu'à la fin de l'année 2017 à leur contrat de travail. Donc, la perte de leur emploi, par exemple en cas de licenciement, les faisait souvent basculer dans l'irrégularité. Voilà. Donc on a des dispositifs qui les maintiennent donc dans des enclaves, je dirais, à la fois sectorielles et temporelles. Donc l'enfermement, je dirais, dans le temps peut prendre deux formes apparemment opposées, celle de l'attente, c'est-à-dire du temps, je dirais, indéfini qui suspend les personnes et leurs projets, ou celle d'un temps limité, qui circonscrit à l'avance le projet migratoire, en sachant qu'on est là pour une période donnée. Pour ces femmes, c'est généralement 3 ans, renouvelable une fois. Et le délimite, donc un temps qui est délimité entre l'arrivée et le départ programmé. Dans ces deux cas, on voit bien que, quelle que soit la situation, toute possibilité de fixation est prévenue. Et l'idée, c'est que les personnes qui viennent travailler à Chypre sont seulement ici pour une période limitée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des aspects assez prégnant et fort qu'on voit au niveau de Chypre lorsqu'on fait du terrain. Donc j'en viens maintenant sur un point un peu plus plus théorique. Je vais peut-être passer sur Cofinou. Alors Cofinou, dans l'article, je peux peut-être en dire quand même deux mots. Cofinou, c'est le seul centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui est à Chypre. Donc, alors, je peux vous donner. Donc, ça, c'est le centre que j'avais. C'était bien parce que là, on avait eu l'autorisation d'y aller pour tous les quatre. Et donc, pendant que les filles faisaient des entretiens, moi, je prenais des photos et je prenais des dimensions pour faire ma carte. Voilà. Donc, ce qui a permis de comprendre un peu ce lieu-là, qui est donc fait avec des algécos au milieu de la campagne, et qui permet aussi de saisir d'une autre manière, vraiment sur une échelle très locale, ce qu'on avait pu observer à une échelle plutôt à l'échelle insulaire. Et donc, on voit que dans ce centre-là, on a, des similitudes avec les lieux de privation de liberté, dans le sens où on voit qu'il se dégage aussi des règles informelles de ces espaces-là. On voit qu'il y a quand même un contrôle qui est très fort porté sur les personnes qui sont accueillies au sein de ce dispositif-là, avec l'obligation auprès des travailleurs sociaux, voire de la psychologue, de pouvoir signer chaque matin sa présence, sinon les repas ne sont pas délivrés, avec une possibilité d'aller et venir, mais on voit quand même que la dimension du contrôle est assez forte et bien présente au niveau de cet espace-là, donc situé vraiment à l'écart de tout. Donc je vous ai mis quelques photos pour montrer. Pour avoir enquêté sur le camp de Sangatte au début des années 2000, c'était vraiment dans un tout autre contexte, mais ça me rappelait vraiment une disposition et un fonctionnement assez similaire dans la manière dont les choses pouvaient être mises en place. Et donc, voilà. Et donc, simplement pour vous montrer aussi, par rapport à ce graphique-là, c'était donc vous montrer que malgré qu'on a eu... donc, on voit bien que l'ouverture sur ce graphique-là, l'ouverture de la ligne de démarcation à partir de 2003 a conduit à une augmentation assez nette du nombre de requérants qui arrivaient sur Chypre, parfois avec l'idée pensant que l'Union européenne était gagnée, or c'est loin d'être le cas, et aussi parfois parce que les passeurs aussi orientent, c'est plus facile d'orienter les gens vers cette partie de l'Union européenne plus proche, et ce qui permet de remplir le contrat qui était passé entre les migrants et leurs aidants. Donc on voit bien que malgré des nombres assez conséquents, on a des taux de reconnaissance qui demeurent assez bas, notamment si on prend la question du statut de réfugié de 1951. Alors j'en viendrai maintenant sur des ordres un peu plus, un peu plus théoriques sur la question donc, du gouvernement confinementaire. La gestion de ces personnes migrantes et la multiplicité des échelles et des espaces de relégation à Chypre donc, nous ont amené à développer cette notion. Et quel est l'intérêt de cette notion par rapport à d'autres comme celle d'enfermement, de gouvernement humanitaire développé par Michel Agier? Qu'est-ce que cela peut apporter à la réflexion? Ce concept a été construit en écho donc, à celui donc, développé par Michel Agier et avec cette question donc, du gouvernement humanitaire, avec sa forme paradigmatique pardon, donc, du gouvernement étant le camp de réfugiés. Donc le concept de gouvernement humanitaire tend, je dirais, à renforcer la dichotomie dedans-dehors, désirable-indésirable. Et la recherche du confinement reste souvent, je dirais, attachée à la réclusion physique. Donc, un des apports de la notion de confinement, développé quand même assez par les géographes au départ, c'est qu'elle permet, grâce, il nous semble, à sa richesse sémantique, de dépasser un peu cette dichotomie, et cela de deux manières. Tout d'abord, il y a la notion de confins, qui est particulièrement, comme je disais, travaillée par les géographes, et qui se démarque donc de l'idée de frontière ou de limite entre deux côtés. Donc ça, c'est un des premiers points. Et donc, un des second point, c'est que c'est un espace marqué aussi, l'idée de confins, c'est un espace marqué par la continuité et la présence de gradients, là où l'idée, parfois, de limite suggère plutôt, dans le sens commun, je dirais plutôt une rupture, vraiment quelque chose d'assez fort. Et donc, les synonymes, je dirais, du terme confiné sont ainsi de grands ordres. Le premier, donc, renvoie à l'idée de réclusion ou d'enfermement. Et le second, en même temps, renvoie à la question du voisinage, donc à savoir être à la limite de quelque chose, s'approcher de quelque chose. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui nous semblait intéressant. Et donc, cette dimension, on va dire, protéiforme de la notion de confinement, à la fois concrète et abstraite, nous semblait donc adaptée pour comprendre, analyser ces pratiques migratoires, marquées par une tension forte, je dirais, entre l'appel de la main-d'œuvre migrante et leur refus d'installation tel qu'on pouvait l'observer à Chypre. Donc, en déplaçant cette réflexion sur la régulation donc des populations migrantes d'une question statique, j'ai rejet accueil, à une question plus d'ordre temporel, un autre des intérêts de l'idée de confinement est de dépasser aussi les notions d'indésirable et d'exclusion, donc ce que je disais, et qui sont largement diffusées dans la littérature scientifique sur les migrations. Donc, néanmoins, cette notion d'indésirable demeure intéressante car elle permet de désigner des personnes dans des situations très différentes, je dirais, sans préjugés de leur statut, savoir légaux, irréguliers, demandeurs d'asile, etc. Et présente aussi l'avantage de ne pas épouser les catégories institutionnelles. Donc, les personnes sont davantage définies par le regard porté sur elles que sur leur situation juridique ou leur catégorie institutionnelle qui leur ont été octroyées. Donc, cette notion de confinement, de par sa proximité avec l'univers, je dirais, du continuum, plus que celui de la frontière, permet également de rompre avec les couples, donc ces couples binaires, auxquels renvoie le terme indésirable, pris par certaines des mêmes faiblesses que le terme d'exclusion aussi qu'on évoque dans l'article. Donc on voit que certains migrants, comme notamment les travailleuses domestiques, peuvent être considérés comme indésirables en tant que résidents permanents. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent évoqué, soit par les institutions ou soit par certains employeurs. Mais néanmoins, leur présence n'est pas considérée comme telle en tant que main-d'œuvre temporaire. Donc plus largement, il n'est pas attendu, je dirais, de ces travailleuses qu'elles quittent l'espace national, mais qu'elles y restent plutôt socialement invisibles. Voilà, c'est vraiment ce qui plutôt leur est demandé, avec quelques exceptions près, notamment lorsque je dis où le dimanche, on accorde une certaine forme de tolérance dans des espaces comme le centre de Nicosie, où elles peuvent, s'accaparer à plusieurs activités. En fin de compte, d'autres exemples aussi, par exemple, on a sur la question des demandeurs d'asile, qui sont présentés souvent comme des indésirables, comme une charge dans le discours public, alors qu'on voit bien que la force flexible qu'ils procurent est en fait très recherchée. Quand je prenais cet exemple de Kofi Annou, lorsqu'on y enquête, si on est assez tôt le matin, vers 7h, entre 7h et 8h, on voit régulièrement des fermiers des environs voisins, bon, des choses assez classiques, hein, qu'on retrouve aussi parfois dans le sud de la France d'une autre manière, ou en Espagne, ou en Italie, eh bien, qui viennent chercher cette main-d'œuvre qui leur permet de s'affranchir quelque part des règles qui pourraient leur être imposées. Donc là, ça renvoie notamment à ces questions qu'Alain Maurice a pas mal développées, notamment autour de la question de l'utilitarisme migratoire, qui admet la présence de ces migrants tout en les, je dirais, circonscrivant. Et donc, ça, voilà, donc on est vraiment dans ce dilemme. Donc, prenant, je dirais, à contre-pied un peu les théories d'Agamben sur la vie nue et des conceptions du camp comme institution carcérale, disciplinaire, panoptique, rigide, donc chargée, je dirais, de gérer, pour reprendre, ou d'assurer une meilleure gestion des migrations, hein, la formule souvent employée, on voit que cela montre que les camps constituent déjà des tentatives spatialisées de contrôler donc temporairement la circulation et de rendre productive et d'administrer tant bien que mal ces personnes. Donc ce que l'exemple de Chypre nous donne à voir, je dirais à travers la généralisation de ces différentes formes de confinement, dans ces dimensions, je dirais, aussi bien abstraites que concrètes, c'est donc l'institution, ou l'institutionnalisation plutôt, donc de la mise à l'écart en dispositif, d'où le recours aux notions à cette notion donc, de régime de gouvernement confinementaire. Donc, on voit bien qu'à travers ces besoins de main-d'œuvre liés à en grande partie à son développement économique. Donc, le revue de toute fixation liée à la nature de la citoyenneté, au conflit avec le voisin du Nord, hein, qui peut être parfois, qui peut ressurgir, hein, notamment avec la partie Nord. Le rôle de barrage que sa position géographique peut jouer, ou du moins peut être présenté comme tel. Donc l'amène à endosser et éclairer la complexité donc, des circulations qui traversent l'espace chypriote autant que le recours à un mode de régulation largement basé sur le confinement. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces questions de confinement, mais à travers cet article, et c'est pour ça que je ne sais plus quelle heure... Oh bon, super, bon, très bien. Donc, au-delà de cet article, c'est qu'on a l'impression qu'on a tout un dispositif, et bon, c'était l'objectif de montrer un peu ce continuum et cette diversité, je dirais, des formes de confinement qui s'opéraient à l'espace chypriote et qu'on peut retrouver aussi dans d'autres pays. Mais aussi, je vous avais mis un second article parce qu'il semble aussi important que les personnes migrantes ne sont pas uniquement, je dirais, victimes de ces dispositifs, mais arrivent très bien à s'en accommoder, très bien, je vais mettre des guillemets, arrivent à s'en accommoder, et pour, je dirais, faire en sorte, je dirais, de soit de poursuivre leur projet migratoire, ou soit de pouvoir espérer, je dirais, aller vers de meilleures conditions, je dirais, de vie. Donc, dans ce second article que j'avais publié, donc la seule, cette fois-ci, qui s'appelait « Révolte, protestation et résistance du quotidien », j'ai essayé de m'attacher, et là, plus sur les questions, notamment, de mobilisation au sein de ces lieux d'enfermement, des choses qui étaient assez récurrentes que j'avais vues, et de voir, notamment, comment ces différents mouvements de contestation, pardon, apparaissaient de manière fréquente. Et donc, au niveau de... Donc, la Cite Papier s'intéresse principalement, je dirais, aux lieux de confinement. C'était aussi de voir aussi que ces mouvements de contestation s'opéraient aussi et avaient des liens, que ce soit dans des lieux comme celui-ci qui est à Cofinou, ou que ce soit aussi parfois dans l'espace public face au ministère de l'Intérieur à Chypre, où des grèves de la faim avaient lieu régulièrement, voire devant les bureaux du HCR, basés à proximité de la ligne de démarcation. Donc, on voit qu'on a tout un ensemble de mouvements, de protestations qui tentent, je dirais, d'infléchir ces régimes auxquels les personnes sont confrontées. Et j'avais notamment repris une expression qui avait été, qui avait été employé par Del Umbria, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un sociologue qui est basé à Marseille, enfin sociologue, je ne suis pas sûr qu'ils sont employés, et qui avait employé l'expression en référence notamment à des travaux sur les révoltes dans les quartiers pauvres des villes de Grande-Bretagne, qui avait employé l'expression de copycat riots, les émeutes photocopies, dans le sens où on pouvait avoir comme ça des mouvements de protestation qui s'opèrent dans différents lieux et qui peuvent paraître isolés les unes des autres. Et en même temps, de par aujourd'hui les liens qui peuvent s'opérer par les réseaux sociaux, mais aussi par les journaux, etc., eh bien, il y a des formes de reproduction comme ça de ces mouvements qui peuvent s'opérer et qui peuvent montrer des liens entre ces différentes protestations. Donc, ces différentes formes de micro-événements hein, qui permettent donc, à ces personnes de surpasser des périodes parfois difficiles et de s'adapter à ces environnements parfois carcérales, à ces environnements parfois confinementaires, permettent de comprendre, de voir la manière dont les gens s'adaptent à leur quotidien, on va dire. Donc, c'était d'essayer de comprendre donc, comment ces petits événements donc, qui rythment la vie quotidienne des étrangers au sein de ces centres de rétention administrative sont rarement, parfois, considérés comme des actes de résistance. Voilà. Et donc, là, alors, j'avais essayé, dans un premier temps, d'essayer de faire un peu une typologie de ce qu'on pouvait y observer à partir des différents entretiens que j'ai pu faire avec les personnes migrantes ou à partir de lectures de journaux de presse. Et donc, un des premiers éléments, c'était les actes, je dirais, des choses assez classiques, hein, de dégradation des locaux des centres de rétention administrative. Donc, ce premier ensemble d'actes de résistance consiste donc, ils ne sont pas propres aux établissements de rétention administrative, dans le sens où on les retrouve souvent dans les prisons, mais peuvent toucher donc des biens matériels, comme des caméras, les fenêtres, les portes, les installations électriques. Tout ça, c'est des choses qui sont assez visibles. Et donc, on voit aussi, lorsque les gens ne sont pas entendus, souvent aussi, c'est par le feu aussi que les moyens peuvent être amenés à être utilisés, donc, ou du moins que viennent à s'exprimer les révoltes. Et on voit que c'est lié aussi, notamment, aussi sur des réglementations qui ne sont pas respectées de la part de l'administration, qui conduit à ce que les gens se comportent de cette façon. Donc ça, c'est vraiment un des premiers aspects, je dirais, dans ces révoltes. Le deuxième vient sur, je dirais, les actes visant le personnel institutionnel qui encadre ces enfermements. Donc, on voit bien que ça regroupe aussi bien des faits qui s'insèrent dans des cadres légaux. Et, par exemple, on pense notamment au nombre de courriers qui puissent être envoyés depuis ces lieux-là auprès des autorités pour faire en sorte que les droits soient respectés. Et notamment, j'avais montré à partir de... Alors, je vais passer... Toc. qu'on disait. Voilà. Et notamment, j'avais essayé de montrer ça, on montrait sur des personnes qui ont été enfermées. Alors, ce n'est pas la majorité des personnes, hein, faut quand même le rappeler, je crois que c'est important, mais on a quand même, jusqu'au tournant des années 2012-2013, on a des personnes qui peuvent être enfermées plusieurs années, et ce qui permettait de suivre leur parcours carcéral, notamment celui-ci, parce qu'il était enfermé dans la prison de Nicosie, et de montrer comment les choses s'opéraient. Et donc, cette personne qui est iranienne me racontait, donc pour l'avoir vu à deux reprises lorsqu'il était enfermé, et après à de nombreuses reprises lorsqu'il a été libéré, la façon dont les choses se passaient. Et pour avoir gardé contact, notamment durant sa période carcérale, par téléphone avec lui, un jour il m'avait fait parvenir, c'était à la fin de l'année 2010, tout un ensemble de documents qui étaient écrits parfois en grec, parfois en anglais, et donc en espérant, me voyant comme un juriste, et espérant que je puisse le sortir de sa situation. Donc moi j'étais assez embêté d'avoir toute cette littérature administrative dont je savais que faire, et avec Bénédicte Michalon on avait réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait bien faire de tout ce matériel, donc c'était quand même assez imposant, et donc elle m'avait dit mais à ce moment-là ça serait peut-être de reconstituer une chronologie administrative de ces liens qui ont pu s'opérer depuis l'intérieur avec les autorités qui sont situées à l'extérieur. Et donc sur cette période-là, qui correspond à la période où on avait l'ensemble de cette correspondance administrative, j'avais donc repris toutes ces lettres que j'avais classées, et donc qui montraient la correspondance par exemple avec le ministre de l'Intérieur, dans le sens où, quand je parlais que les révoltes souvent émergent de tensions ou de non-respect des lois, là, c'est notamment le cas parce que la question du recours contre des décisions administratives sont très difficiles à mettre en place. Donc, ce qui fait que les gens écrivent énormément, se présentent dans leur courrier, tentent de montrer ce qu'ils ont fait, d'accepter certaines erreurs qui leur sont reprochées, de les accepter comme telles, mais de montrer aussi qu'il y a des liens qui ont été mis en place avec la société d'origine, savoir d'origine, de société d'accueil comme Chypre. Et là, notamment, c'est le cas de cet Iranien qui était chauffagiste jusqu'au moment de son incarcération, qui était là depuis 7-8 ans, et pour des questions liées donc à la régularisation de son séjour, se retrouve enfermé. Et donc on voit quand même une correspondance qui se fait beaucoup plus, je dirais, depuis l'intérieur vers l'extérieur, mais avec des réponses du ministère de l'Intérieur qui sont quand même très limitées. Et donc on voit quand même que ces choses se continuent. On voit notamment avec l'ombudsman, donc à savoir qu'il est l'autorité indépendante qui est chargée notamment de savoir si les règles sont bien respectées, mais qui n'a pas force de loi. Et donc, en conséquence, on voit aussi que là, les échanges se perdent, mais sont quand même, somme toute, assez limités. Et enfin, on a quelques courriers avec les associations qui sont peu présentes au niveau, à la différence d'autres pays comme la Belgique ou la France. Voilà, si on prend cet exemple-là. Et enfin, je me suis impliqué dans cette recherche parce qu'on voit bien aussi que le chercheur aussi est impliqué à un moment donné, se trouve impliqué dans ces systèmes-là. Bon, ça conduit, moi, ce que j'écrive un papier sur le blog Terre Ferme, donc avec l'aide de Bénédicte Michalon, et ça conduit à sa libération de cette personne-là. Donc, et même, ils étaient une dizaine parce que on rappelait, au vu des différents éléments, que la directive retour n'était pas respectée et qu'en conséquence, Chypre se mettait en porte-à-faux par rapport à certaines réglementations sur lesquelles elle s'était engagée. Et donc, c'était vraiment... Et ce qui permettait aussi de voir à l'intérieur aussi de cette correspondance, c'était le rôle que... C'est des choses... que dans les études sur les prisons qui sont relativement classiques, mais on voit le rôle très important de cette personne-là avec les années, les mois qui se succèdent, de devenir un leader et capable de mobiliser tout un ensemble de personnes de par des pétitions. Et donc ça, c'est des choses que... voilà. Après, il y a aussi, on voit qu'il y a certaines formes d'arrangement qui s'opèrent, notamment dans... dans ce quotidien. Lui étant chauffagiste, à aucun moment donné, il avait été déplacé de Blocktène vers d'autres commissariats, comme ça a été le cas pour d'autres migrants, dans le sens où mais ça permettait d'avoir une main-d'œuvre à pas cher pour pouvoir régler les questions de clim l'été où on a 40 degrés. Donc voilà, donc tout ça, ça c'est des choses quand même qui sont. Voilà. Non, alors Jean. Je fais un saut, mais j'en viens notamment sur toutes ces négociations qui s'opèrent dans ces régimes de confinement, et notamment dans les régimes de confinement physique. Et là aussi, on voit que le fait de sortir aussi du lieu, moi, je l'intègre dans ces petits actes de résistance, dans le sens où ils vont être un préalable à d'autres actes plus forts, plus radicaux, dans le sens de pouvoir sortir les poubelles, de pouvoir aller dans le jardin, entretenir le jardin qui est autour du centre. Voilà. D'aller chercher la nourriture qui est faite dans l'autre aile de la prison. Voilà. Donc il y a tout ça, il y a plein de petits éléments comme ça qui permettent d'avoir une connaissance de l'environnement et qui va permettre à un moment donné de pouvoir aller vers des actions beaucoup plus radicales. Et on le voit notamment avec un autre Iranien, donc pas avec lui, qui est passé aussi quelques années, qui avait un peu ce même rôle. Et qui me disait, voilà, moi ça m'a permis de connaître le lieu et à un moment donné de pouvoir monter sur le toit du centre de rétention, d'y rester pendant 4-5 jours pour pouvoir tenter de rendre public leur situation. Donc, voilà, d'avoir vraiment un geste politique. Et voilà. Et donc, après, souvent, c'est pas considéré comme tel par les autorités, mais eux, ils l'expriment de cette manière-là, en disant, voilà, on a une action politique qui est celle de faire connaître notre situation. C'est pour ça que certains d'entre eux, m'ont demandé, lorsque je leur disais que j'allais utiliser leurs écrits ou leurs plans de ce qu'ils m'avaient décidé, eh bien, me disaient, mais moi, je veux que tu mettes mon nom. Je veux pas que tu mettes un homonyme. Dis-moi, j'ai envie que ma situation soit connue. Alors après, ça dépendait des personnes, hein, mais certains me l'ont dit. Donc ça a été le cas de plusieurs d'entre eux. Parfois aussi, on se retrouve aussi dans des situations où on est attendu. Donc là, on le voit aussi, par exemple, sur ce nombre de courriers comme ça que donc vous voyez par les gens savaient que j'étais attendu. Donc là, pareil, j'ai une multitude de courriers comme ça qui m'étaient donnés au moment des différentes visites. Et donc là aussi, on se trouve pris dans des engrenages que parfois sur lesquels on n'a pas forcément réfléchi et mais que le chercheur va devoir faire avec. Donc ça aussi, ça fait partie des choses. Et donc tout ça, c'est ce que j'ai appelé un peu, dans l'article que j'avais appelé ça un peu les résistances ordinaires. Hein. Je faisais référence notamment, ce titre faisait référence à un livre de Danilo Martuccelli qui s'appelait « Les dominations ordinaires, exploitation de la condition moderne ». Et donc dans ces résistances ordinaires, on voit comme ça, il y a plein de petits actes qui sont vraiment, à mon avis, importants et qui, il me semble, dans ces régimes de confinement, qu'il ne faut pas passer sous silence parce que ça permet aux personnes de pouvoir résister à leur manière. Pendant toute une période, lorsque les téléphones cellulaires étaient interdits, j'avais 2-3 personnes avec lesquelles je communiquais parce qu'ils avaient réussi à tirer des fils derrière une plainte. Ça fait un peu film policier, mais derrière une plainte, ils avaient un chargeur, ils avaient un portable derrière cette plainte, et comme ça permettait de communiquer avec l'extérieur. Et donc voilà, donc c'est ça aussi tout ça. Alors aujourd'hui, ça c'est des périodes qui, ça peut faire paraître de la préhistoire, parce que maintenant les portables sont utilisés, mais à l'époque, au début des années 2010-2011, c'était des choses quand même assez... Alors, je vois le temps qui passe. Alors après, je dirais, dans les différentes formes de résistance aussi, et c'est des choses notamment aussi qui ont été développées et que j'ai retravaillé, notamment à partir de ces contextes quand même qui sont assez forts, notamment par Johanna Siméan, hein, notamment sur toute la, son travail de recherche de thèse qui avait été fait au début des années 2000 sur les mouvements de protestation des sans-papiers et qu'on peut retrouver aujourd'hui d'une certaine manière aussi qui existe au sein de ces centres-là. Et notamment, c'est la violence contre soi, à savoir soit différentes formes d'automutilation, comme les scarifications, les actes commis par des personnes qui peuvent se coudre la bouche. Alors, j'en ai pas vu à Chypre, mais on le voit dans certains centres italiens. On le voit aussi dans certaines régions comme ce qui a pu se passer à Calais, etc. Voilà. Donc ça fait partie de cette violence contre soi. Les grèves de la faim aussi, quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est souvent très récurrent et qui n'est pas uniquement à l'intérieur de ces centres-là, mais qu'on retrouve aussi, par exemple, devant le ministère de l'Intérieur, quand je parlais tout à l'heure de cette difficulté lorsque des personnes à Chypre ont le statut de réfugié, il leur a octroyé un titre de séjour 3 ans, mais qui n'est pas considéré comme un titre de séjour longue durée. En conséquence, ça ne leur permet pas de pouvoir aller dans un autre pays de l'Union européenne. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel les migrants se sont battus pendant très longtemps. Et donc on avait des personnes qui se retrouvaient confinées dans ce statut-là, étant en difficulté pour pouvoir quitter l'île, difficulté pour avoir un travail, et donc se retrouver à un moment donné, notamment au début de l'année 2015, devoir faire grève pendant plusieurs semaines devant le ministère de l'Intérieur pour espérer voir leurs conditions évoluer. Donc ça, c'est vraiment un des aspects qu'on retrouve de manière assez régulière. Et enfin, j'ai un dernier point aussi dans ces révoltes, dans ces protestations, qui sont les fuites, voire les tentatives de fuite, dans le sens où elles font partie aussi de, même si elles sont moins, rendues publiques, mais elles existent. Et donc ça, c'est vraiment aussi des aspects, à mon sens, qu'il est important de prendre en compte. Juste pour anecdote, il y a quand même peut-être une autorité qui, au niveau des pays de l'Union européenne, je ne connais pas tout, hein, mais je sais que l'Office des étrangers au niveau de la Belgique, c'est assez intéressant de voir dans leur rapport, ils mentionnent toutes ces tentatives de fuite, quand est-ce qu'elles ont eu lieu, dans quel centre elles se sont opérées. Voilà. Il y a une forme de transparence, non, mais je veux dire une forme d'acceptation de ce fait-là, qu'on trouve peu dans d'autres rapports. Voilà. Donc, on voit bien donc face, je terminerai là-dessus, face à ces donc, conditions d'enfermement ou face aux impasses administratives auxquelles les étrangers sont confrontés, on voit que ces différents mouvements donc, de contestation portés par ces derniers peuvent, à mon sens, être considérés comme une extension donc, de leur mode de vie. Et beaucoup d'étrangers donc, affirment ainsi qu'ils ne peuvent espérer de reconnaissance de leurs droits que par l'action, avec pour objectif donc, de modifier les rapports de force qui existent entre les institutions et eux. Voilà, donc c'est pour ça que je crois que il me semble important de rappeler ces aspects. Je m'arrête là, et puis j'imagine que vous aurez des questions sur des points où j'ai peut-être pas été suffisamment clair. Voilà. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup. Je vais juste faire une micro-discussion la plus rapide possible pour que la parole circule ensuite dans le reste de la salle. Je voulais préciser au début que quand on a commencé justement à réfléchir sur ce séminaire et sur la question de frontières prises dans une acceptation très large, donc à la fois géographique et sociale et symbolique, la réflexion que vous développez avec Karen, elle est apparue assez vite comme étant quelque chose dont on avait envie de discuter. Et la notion de gouvernement confinementaire, elle a attiré particulièrement notre attention. Donc mes remarques, elles vont porter principalement sur ce point. Même si, bien entendu, après la discussion, ne se limite pas uniquement à cet apport-là. Donc vous faites tenir dans l'analyse à la fois une prise en compte des dispositifs concrets et des dimensions symboliques. Je vais plutôt revenir sur cette question des dimensions symboliques du confinement dont tu as parlé. Donc considérer qu'il existe des confins et des zones qui sont à la limite permet, comme tu l'as précisé, de décaler le regard en passant d'une analyse en termes de frontières à une analyse en termes de continuum. Et cela, ça nous a semblé, dès le départ, comme étant un moyen, euh, un peu nouveau justement de sortir de ces analyses classiques qu'on a pu avoir en sociologie des migrations jusque-là, et notamment pour développer une analyse de situations une analyse plus fine en fait de certaines situations qui sont un petit peu hybrides à plusieurs niveaux. Donc l'approche en termes de confinement, elle permettrait de revenir notamment sur la dichotomie entre réfugiés et migrants, parce que, alors je pars de mon terrain, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres situations. Il me semble que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tellement donc d'être réfugié par exemple, mais de parvenir à se rapprocher le plus possible d'une position idéale au sein de cette catégorie, qui est soumise à différents critères. Et par rapport à cette position centrale, on se rend compte qu'on a des positions plus périphériques, comme tu le signalais tout à l'heure, qui conduisent, en fait, même si on est réfugié, à être traité comme un réfugié de seconde zone, en fait. Et donc tout ça passe par des dispositifs que tu as décrits. Je donnerai juste un exemple supplémentaire des réfugiés au Maroc qui n'ont par exemple qu'un titre de séjour qui est valable que un an, donc ce qui fait complètement écho à ce que tu signalais tout à l'heure, qui n'ont pas de passeport pour se déplacer, etc. Alors même qu'ils ont le statut de réfugié qui est considéré comme étant un statut protecteur, facilitateur pour la mobilité à divers titres. Et donc en s'interrogeant sur ces situations qui sont vécues par les individus confinés, on interroge plus généralement un système de gestion des migrations contemporaines. Et ça a beaucoup fait écho aussi pour nous à ce que Sébastien Chauvin appelle la citoyenneté bridée. Alors au départ, on aurait voulu faire discuter vos travaux
Personne n'entend.
Désolé.
Mais pas dans le micro, sinon.
Ou dans le micro, oui. Personne n'entend.
Il marche ?
Il faut l'allumer, sinon.
Oui, en fait, au départ, on avait pensé organiser cette séance en nous faisant discuter Karen et toi avec Sébastien Chauvin sur la notion de citoyenneté bridée, parce qu'il nous semblait que ça suscitait des questions similaires. Donc pour Sébastien Chauvin, ce qui se joue pour certains migrants aux États-Unis, je le rappellerai très brièvement, c'est moins l'exclusion totale du régime de la citoyenneté qu'une institutionnalisation de leurs conditions subordonnées. Donc eux aussi se trouvent à la limite d'eux, ils sont formellement non-citoyens, et pourtant leur trajectoire amène Sébastien Chauvin à envisager différemment l'espace social dans lequel ils se trouvent, donc comme étant en partie intégré et en partie non intégré, en partie rejeté, etc. Et ils ne sont jamais complètement, et je pense que le terme est important car il marque justement la graduation dont tu parlais tout à l'heure, ils ne sont jamais complètement réduits à l'état de non-citoyens et ils forment, donc je cite, « une couche reconnue et stabilisée de sous-citoyens, parfaitement maintenue et contrôlée dans cette zone par divers dispositifs concrets et symboliques ». Et donc, voilà, on avait le sentiment que ça, c'était des approches qui discutaient bien ensemble. J'aurais juste en fait une question, ou plutôt une remarque, enfin deux remarques, une remarque méthodologique très rapide sur le fait que, en introduisant du coup la dimension temporelle du confinement et notamment le passage par différents lieux, etc., ou par différents statuts, par différents contrats, juste si tu pouvais préciser comment est-ce que vous avez abordé cette question-là ou comment est-ce que vous l'avez captée. Tu as dit tout à l'heure que tes collègues avaient fait des entretiens. Est-ce que vous retracez en fait la dimension temporelle du confinement par des entretiens biographiques, voilà, simplement peut-être quelques précisions là-dessus. Et il me semble aussi que quand tu suggères qu'il y a des positions liminaires, donc qui sont à la limite d'eux, pour reprendre encore ces termes-là, j'imagine que ça suggère aussi qu'il existe des zones plus centrales et des positions plus valorisées, ou en tout cas avec des connotations plus positives dans le système migratoire. Je ne sais pas si je suis très claire quand...
Je comprends, mais après, ouais, on verra.
Voilà, en fait, savoir si tu avais des éléments comme ça sur cette... sur l'autre versant, en fait, sur le fait que tu as des... Il y a des personnes qui sont maintenues aux confins, et donc probablement des personnes qui occupent des positions plus valorisées,
Et peut-être que la question de la protestation des migrants, c'est ça, en fait, c'est d'essayer de remonter les graduations, en fait, pour s'approcher le plus près possible de ce qui pourrait être considéré comme une position idéale ou construite comme telle, en tout cas, dans le système migratoire actuel. Voilà.
Ok. Et, très bien.
Donc, je sais pas, peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions.
Bah, je peux peut-être répondre à tes deux dernières questions. Tu es prêt, enfin, je sais pas, alors que j'oublie. Non. Merci. Alors effectivement, Sébastien Chauvin, en plus, je regardais, on ne faisait pas référence à ses travaux dans l'article qu'on a fait avec Karen, mais on en a reparlé après. Et quand cette idée avait été évoquée, on avait trouvé ça plutôt chouette, parce que c'est vrai que ça, je trouve que cette idée, cette notion de citoyenneté bridée, je trouve correspond aussi d'une autre manière, mais de ce que peuvent vivre tout à fait les personnes à Chypre. Alors, sur la question de... C'est ta deuxième question. Je dirais que lorsque les personnes acceptent, ou du moins jouent le jeu, entre guillemets, de cette subordination, voilà, de ce statut qui leur est imposé, je dirais qu'il y a une attention qui... je dirais qu'il y a un rapport de domination, ça c'est évident, quoi, de la part des Chypriotes, ou du moins de certaines institutions, de dire, voilà, à partir du moment que vous jouez le jeu, si vous n'êtes pas trop, je dirais, revendicatif par rapport à vos conditions, eh bien, voilà, on accepte cette présence-là. Ça devient beaucoup plus compliqué lorsque les gens commencent, je dirais, à être beaucoup plus revendicatifs, et notamment, là je prenais l'exemple de ces personnes-là, lorsqu'elles mettent, je dirais, dans le débat public leur situation. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, où ça devient très difficile, ou alors ça demande vraiment la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs associatifs, des acteurs associatifs, donc chypriotes, mais aussi au-delà, pour pouvoir faire en sorte que leur situation évolue. Donc, après, je ne suis pas sûr d'avoir compris, tu dis qu'en zone centrale, est-ce qu'il y a des zones centrales où les gens aimeraient se rapprocher ?
En fait, ça fait un peu écho à ce dont on discutait à midi avec le processus de réinstallation ou de relocalisation. C'est-à-dire qu'il y a quand même à la fois du coup des dispositifs qui maintiennent à l'écart et des dispositifs qui, alors, qui gèrent quand même une présence qui est d'une manière indésirable ou indésirabilisée, mais qui, en fait, il y a peut-être des migrants moins pires que d'autres. C'est pas forcément une position positive. Une position valorisée, mais moins dévalorisée que d'autres.
Oui, tout à fait. Après, ce que disent certaines institutions, mais ça, on le retrouve aussi dans d'autres pays, c'est pas propre à Chypre, hein. C'est à un moment donné, d'ouvrir des possibilités de circulation pour faire baisser certaines contestations, et qu'en conséquence, le fait que les personnes partent, eh bien, effectivement, on va revenir à des situations antérieures qu'on connaît et sur lesquelles les gens vont pouvoir continuer à travailler, que ce soit les institutions, voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui sont évoquées. Après, sur la manière dont on a travaillé, alors ça je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, notamment si on vient sur la question alors que ce soit des centres d'accueil ou des lieux de confinement, moi à chaque fois je passais par l'intermédiaire parce que j'y allais sur 15 jours, 3 semaines. Comme ça, je faisais des allers-retours. Je passais par l'intermédiaire d'une association, qui est une des principales associations, mais qui n'est pas la seule aujourd'hui, qui s'appelle KISA, qui est une association donc d'aide aux migrants, et qui, à Chypre, tout le monde se connaît, hein, je veux dire, c'est 800 000 habitants, les gens qui travaillent autour des migrants, que ce soit des chercheurs ou des associations, on a vite fait le tour. Donc tout le monde se connaît. Et donc moi je passais par l'intermédiaire qui ça, parce que lorsque j'avais fait l'étude pour le Parlement européen, on avait cette obligation de travailler avec une organisation. Donc ça nous a été imposé. Et donc depuis j'avais continué à travailler avec eux. J'avais l'avantage, mais qui faisait toutes les démarches auprès du ministère de l'Intérieur, ce qui fait qu'après j'avais mon autorisation, qui était quand même très très courte, parce que au mieux c'était 3 jours, parfois c'était une journée, donc ça permet, je dirais, de picorer, voilà, de butiner assez rapidement, de prendre des contacts, et voilà. Et donc la plupart des entretiens que moi j'ai ensuite menés se sont faits à l'extérieur. Donc à savoir des personnes qui ont été enfermées à un moment donné, avec qui j'avais pu garder le contact, et qui ensuite m'ont dit de façon vraiment, dans le détail, d'avoir des récits biographiques pour pouvoir comprendre comment différentes périodes d'enfermement étaient devenues des jalons dans leur parcours migratoire. Donc ça, moi, je l'ai opéré quand même principalement de cette manière-là. Un autre Iranien, pas celui dont je vous ai montré tout à l'heure le parcours, son parcours, du moins ses échanges de lettres qu'OMS, mais c'est un autre Iranien qui s'appelle Morteza, Morteza Molazeinal, donc son vrai nom, que j'avais rencontré, et donc je l'avais rencontré une première fois en 2007. Donc on s'était vu, il m'avait recontacté septembre 2007 aussi, parce que c'était là à l'époque où ils étaient montés sur le toit, et donc ils souhaitaient faire rendre public leur contestation. Il est sorti qu'en 2008, et en 2009, lorsque je reviens, j'avais perdu son contact. Et par l'intermédiaire d'un avocat, je vous dis quand c'est un petit monde, un avocat, je vois un avocat, je lui explique sur quoi je voulais travailler, il me dit « Ah, mais je crois que je connais quelqu'un qui pourrait beaucoup t'aider ». Et là arrive Morteza, on se connaît. Et là, c'est vrai que des gens comme Morteza, ils sont 4-5 comme ça, qui ont été vraiment des sources très précieuses pour moi, parce que lui, il a passé près de 4 ans, donc il connaît plein de personnes c'était mon fil, c'était vraiment une personne ressource très précieuse, quoi. Et d'autant plus, il savait très bien dessiner. Donc, avant que je commence, j'avais fait une première série de visites en 2007, et avant que je commence ma seconde série de visites, Morteza, qui avait passé dans de nombreux lieux, m'avait fait un plan de plusieurs commissariats au lieu où c'était. Donc il m'avait expliqué à la manière dont ça fonctionnait. Donc moi j'avais à peu près une idée à peu près de la façon dont l'espace était agencé. Et donc ça me permettait de comprendre, et donc ça c'était vraiment... Voilà, c'est vraiment du hasard, quoi. Je veux dire, à aucun moment donné, je me suis dit, en partant sur mon terrain, il faut que je trouve quelqu'un qui dessine. Non, voilà, donc c'est quelque chose qui tombe. Voilà. Et donc ça, c'est une manière dont j'ai opéré. Donc beaucoup d'entretiens à l'extérieur. Et après, lorsqu'on a fait nos terrains ensemble, on se sépare, on travaillait généralement à deux. Donc voilà, par exemple, Camille Schmoll travaillait davantage sur les femmes. Lorsqu'on est allé dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, là pareil, on avait obtenu des autorisations, mais c'était relativement plus facile d'y aller, et donc là aussi, suivant les centres, on allait dans... Mais à chaque fois, effectivement, c'était d'avoir des entretiens assez longs, notamment après, lorsqu'on a fait l'étude sur les réfugiés statutaires, là aussi, c'était de... Alors ça, c'était pas le plus évident, parce que vu qu'il y en a peu qui sont reconnus, mais bon, on en trouve, hein, mais ça n'a pas été le plus évident, mais bon, voilà. Et donc, c'est d'essayer aussi d'avoir, moi ce que j'aime bien, c'est d'avoir une démarche un peu longitudinale, et j'ai encore des... Donc là, ça fait quand même 2 ans, là, pour différentes raisons, que je n'y suis pas retourné. Mais j'ai encore des contacts avec des gens de manière assez régulière, et donc je trouve ça plutôt intéressant d'avoir... Alors ça joue sur 5-6 personnes, voilà. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'aime bien suivre dans le temps. Voilà un peu pour la manière dont... Puis après aussi, c'est de rencontrer aussi des institutionnels. Moi ça me paraît toujours important parfois, même s'il y a des choses qui nous font un peu hérisser les cheveux, mais je trouve que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens du ministère de l'Intérieur, des services de l'asile. Et on n'a pas cette dichotomie, ça paraît sûrement évident à tout le monde, mais d'avoir d'un côté les bons migrants et d'un autre côté les mauvais administrateurs, on voit bien, il y en a qui le disent très régulièrement, ils disent « mais ça, telle personne, tel policier m'a vraiment aidé ». À pouvoir résister, à pouvoir... parce qu'il m'apportait des oranges, parce qu'il m'apportait des journaux, voilà. Et donc, on voit quand même qu'il y a des relations qui se nouent entre ces encadrants et ces personnes. Et c'est là aussi, on voit quand même que la complexité des relations humaines, enfin, bon, vous, en tant que sociologue, ça me paraît évident, mais je trouve que c'est toujours important de rappeler ça, parce que pas tomber dans ce schéma, binaire, quoi. Mmh.